Il n'y a pas de meilleure leçon d'histoire que l'émoi de toute la France en apprenant que la duchesse de Montpensier, petite fille d'Henri IV, épousait le comte de Lauzun. Simple gentilhomme qualifié. Un mariage de ce genre, à moins qu'il ne s'agisse de l'héritier du trône, n'est aujourd'hui qu'une simple nouvelle mondaine, même dans les pays restés de sentiments monarchiques. Au XVIIe siècle, c'était une telle atteinte à la hiérarchie sociale sur laquelle tout reposait que mademoiselle parut avoir manqué gravement à son devoir de princesse, en brouillant ainsi les rangs. Louis XIV, à son devoir de roi, en ne s'y opposant point. On leur en voulut, d'autant plus que les mœurs, encouragées par d'illustres exemples, offraient aux amants séparés par la naissance un moyen facile de concilier leur bonheur privé avec l'ordre public. Les mariages de conscience avaient été inventés pour ces sortes de cas. Pourquoi ne pas s'y tenir ? Paris cherchait la réponse, et il avait pris cet air bourdonnant et affairé que n'oublièrent jamais ceux qui en avaient été les témoins et qui faisaient écrire à Madame de Sévigné au bout de 10 ans, lorsque l'affaire des poisons éclata. Il y a 2 jours que l'on est assez comme le jour de mademoiselle et de monsieur de Lauzun. On est dans une agitation. On envoie aux nouvelles, on va dans les maisons pour en apprendre. On est curieux. Les princes et princesses du sang se jugèrent outragés et se rebellèrent. Événement si en dehors de toutes les prévisions, avec leurs habitudes de soumission passive, que Louis XIV ne laissa pas d'en être ému. La timide Marie-Thérèse donna l'exemple. Mademoiselle était allée lui annoncer son mariage. « Je désapprouve fort cela, ma cousine !» fit la reine d'un ton fort aigre, et le roi ne l'approuvera jamais.
Il l'approuve, madame, et c'est chose résolue. Vous feriez bien mieux de ne vous marier jamais et de garder votre bien pour mon fils d'Anjou.
La colère lui donna le courage de parler au roi, qui se fâcha, doux saine, larmes, nuit de désespoir, mais refus de céder. Et finalement, déclaration publique, qu'elle ne signerait pas au contrat. Monsieur criait du haut de sa tête. Il chanta pouille. « Oh,
député de la noblesse de France !»
traita mademoiselle, en présence du roi, de
« sans cœur »
et de personne
à mettre aux petites maisons,
et déclara aussi qu'il ne signerait pas au contrat. Le plus grave fut qu'il accusa sa cousine de répéter à tout venant que son mariage lui avait été conseillé par le roi. Mademoiselle eut beau jurer qu'elle n'avait jamais rien dit de pareil. Le mot fit une grande impression sur Louis XIV. Il lui donna son premier regret. Le prince de Condé, tant accusé d'être devenu sur le tard un plat courtisan, fit respectueusement au roi des remontrances très fermes. Il n'eut pas, jusqu'à la vieille madame, si profondément oubliée dans son coin du Luxembourg, qui se réveilla de son apathie pour signer une lettre au roi, écrite en son nom par Monsieur le Pelletier, président aux enquêtes. En dehors de la famille royale, Louis XIV sentait le blâme monter vers lui de toutes les classes de la population. La noblesse se refusait généralement à ratifier le mandat que les
députés
s'étaient donné en son nom. Sans doute, l'honneur de ce mariage était grand et très inattendu de la part d'un monarque qui avait travaillé aussi résolument à rogner la puissance de l'aristocratie. Mais la plupart des gens de qualité en étaient moins touchés que de l'espèce d'abaissement infligé à la royauté et à travers elle à l'idée monarchique par un acte qui, pour cette même raison, soulevait une réprobation universelle dans le reste de la nation. Le monde des parlementaires et de la haute bourgeoisie était outré. On y était convaincu que l'affaire n'allait pu être entreprise que du consentement du roi, et l'on trouvait cela une
honte
pour lui. Les classes moyennes étaient dans une irritation inconcevable. Segret entendit Guyoire, intendant de mademoiselle, dire à sa maîtresse d'un ton très excité, sachant fort bien qu'il risquait sa place.
Vous êtes la risée et l'opprobre de toute l'Europe.
Quant au peuple, son attitude fut touchante. Il était, rapporte un témoin,
dans une dernière consternation.
Le peuple avait du chagrin comme si son prince lui avait causé une grande déception. Les ennemis de Lauzun attisaient le mécontentement et tâchaient de gagner du temps. Louvois passa pour avoir obtenu de l'archevêque de Paris qu'il retardât les bans. Le ministre se sentait directement menacé, et c'était aussi l'avis du monde politique où beaucoup de gens crurent toujours que le mariage de mademoiselle avait été un coup monté
contre Monsieur de Louvois, ennemi de Monsieur de Lauzun,
par Colbert et Madame de Montespan. Tandis que l'orage s'amassait, les amis des deux amants les pressaient d'en finir au plus tôt.
« Au nom de Dieu !»
leur disait Rochefort, capitaine des gardes comme Lauzun.
« Mariez-vous plutôt aujourd'hui que demain. »
Montausier les
grondait
de lanterner. Madame de Sévigné représentait à mademoiselle que c'était
« Tant est Dieu et le roi !»
Rien n'y faisait avec des gens qui marchaient sur les nuées. Lauzun,
enivré de vanité,
se croyait au port et à l'abri de tout, ayant le roi et Madame de Montespan pour lui. Mademoiselle,
enivrée d'amour,
se laissait guider. Son premier avis avait été de se marier le soir même de la députation, sans le dire à personne. Mais Lauzun s'y était refusé.
Il était si persuadé que Madame de Montespan ne lui manquerait pas et que rien ne pourrait changer le roi pour lui, qu'il se tenait sûr de tout et disait « Je ne me défie que de vous ».
Se marier ainsi en tapinois ne contentait point sa vanité. Il voulait que cela se fît
de couronne à couronne,
en plein jour et dans toutes les formes. Il voulait la chapelle des Tuileries, du faste, de la foule, une haie de visages étonnés et envieux. Il voulait la
riche livrée
qu'il s'était hâté de commander pour la circonstance. Bref, il voulait la lune, et cela ne réussit jamais. Le mardi 16 décembre,
se passa à parler, à s'étonner, à complimenter.
Il vint au Luxembourg, un monde infini, dont l'archevêque de Reims, frère de Louvois, qui dit à mademoiselle « Me feriez-vous le tort de choisir un autre que moi pour vous marier ?» Un autre avait déjà sollicité cet honneur, preuve que l'on n'envisageait pas alors la possibilité d'une rupture. Et mademoiselle répliqua « Monsieur l'archevêque de Paris a dit qu'il voulait que ce fût lui !» Le mercredi, nouvelle cohue, Louvois en personne, tous les ministres, mais le ton n'était déjà plus le même, et mademoiselle s'en aperçut bien. On me faisait de grandes révérences, on causait, et on ne parlait point de l'affaire. Le soir de ce même jour, elle fit donation à Lauzun.
« En attendant mieux !»
disait Madame de Sévigné du comté d'Eux, qui était la première pairie de France, donnant le premier rang de la principauté de Dombes et du duché de Montpensier, dont il prit aussitôt le titre et le nom. Ils convinrent ensuite de se marier le lendemain à midi. Le jeudi 18, il se trouva que le contrat n'était pas prêt. Les hommes d'affaires l'avaient fait exprès. Vers le soir, Lauzun, qui perdait sa belle assurance, offrit à mademoiselle de rompre. Elle s'en offensa et essaya une fois de plus de lui faire dire qu'il l'aimait. Mais il répondit
« C'est ce que je ne dirai qu'en sortant de l'église. »
Il n'était plus question de la chapelle des Tuileries ni d'éblouir les Parisiens. Et le vendredi, obligé à un nouveau retard, mademoiselle avait écarté ce jour-là. Tout considéré, rendez-vous pris à Charenton, dans une maison amie, pour se marier à la dérobée. Le lendemain soir, après minuit, sans archevêque, car celui de Paris commençait à inspirer de la défiance.
Le curé du lieu nous parut bon pour cela.
Lorsqu'ils furent bien convenus de leur fait, mademoiselle s'amusa à montrer à ses familiers la chambre qu'elle venait de faire arranger pour le futur duc de Montpensier.
« Ha ! Elle était magnifiquement meublée !» raconte l'abbé de Choisy. « Ne trouvez-vous pas, nous dit-elle, qu'un cadet de Gascogne sera assez bien logé ?»
Lauzun prit congé de bonne heure. Il voulait, selon l'usage du temps, aller coucher chez des baigneurs. Mademoiselle s'y opposa, parce qu'il était fort enrhumé. Il avait aussi fort mal aux yeux.
« Vous avez les yeux bien rouges. » Il me répondit « Vous font-ils mal au cœur ?»« Non, car ils ne sont nullement dégoûtants. »
On a déjà pu remarquer que ces illustres amants ne possédaient, ni l'un ni l'autre, les grâces légères de la conversation. Ils avaient le mot singulièrement appuyé.
« Ces dames se moquèrent de nous !»
poursuit la princesse.
« On était fort gais. Je ne sais pourtant quel pressentiment j'avais. Je me mis à pleurer en le voyant partir. Il fut triste, on se moqua de nous. Toutes ces dames s'en allèrent aussi. Il ne resta que Madame de Nogent. »
C'était la sœur de Lauzun, et mademoiselle s'était fort lié avec elle dans les derniers mois. Tandis que l'on perdait du temps au Luxembourg, Louis XIV subissait une sorte d'assaut général pour obtenir qu'il retirât son autorisation.
La reine et les princes du sang redoublaient leurs instances.
Le maréchal de Villeroy se jeta à ses genoux
les larmes aux yeux, les ministres, à la fin, tout ce qui approche de la personne du roi, lui font entendre la voix du peuple. Enfin, Dieu toucha tout à coup le cœur du roi. Dieu non, mais une créature de chair. Madame de Montespan trahissait une seconde fois Lauzun. Lafare affirme que ce fut sur le conseil de Madame de Maintenon, qui n'était encore que Madame Scarron, gagnant péniblement son pain, à élever dans l'ombre les enfants du roi et de Madame de Montespan. Madame Scarron avait infiniment d'esprit, infiniment de prudence, et elle était alors bien loin de toute pensée de rivalité. Le roi ne la pouvait souffrir. Elle racontait plus tard qu'il l'avait prise pour un bel esprit, n'aimant que les choses sublimes. Et Louis XIV redoutait les filaments. Ce fut donc en ami désintéressé qu'elle fit voir à Madame de Montespan l'orage qu'elle s'attirait en soutenant Lauzun dans cette affaire, que la famille royale et le roi lui-même lui reprocheraient le pas qu'elle lui faisait faire. Enfin, elle fit si bien que celle qui avait fait cette affaire la rompit. Louis XIV céda aux instances de Madame de Montespan et envoya chercher Mademoiselle au Luxembourg. Il était 8 heures du soir. Mademoiselle eut un cri en apprenant que le roi la demandait.
« Je suis au désespoir. Mon affaire est rompue. »
Arrivée aux Tuileries, on la fit entrer chez le roi par les derrières. Et elle s'aperçut qu'on lui dissimulait quelque chose. En effet, Louis XIV faisait cacher Condé derrière une porte, afin qu'il les écoutât et lui servît de garant.
On ferma la porte sur moi. Je trouvai le roi tout seul, ému, triste, qui me dit
« Je suis au désespoir de ce que j'ai à vous dire. On m'a dit que l'on disait dans le monde que je vous sacrifiais pour faire la fortune de Monsieur de Lauzun, que cela me nuirait dans les pays étrangers et que je ne devais point souffrir que cette affaire s'achevât. Vous avez raison de vous plaindre de moi. Battez-moi si vous voulez. Il n'y a emportement que vous puissiez avoir que je ne souffre et que je ne mérite.
Ah, m'écriai-je, sire, que me dites-vous, quelle cruauté !
Elle mêlait les protestations de respect et les reproches, criait son désespoir et s'informait avec angoisse à deux genoux du sort de Lauzun.
Où est-il, sire, monsieur de Lauzun ?
Ne vous mettez point en peine, on ne lui fera rien.
Les vraies douleurs sont toujours éloquentes. Louis XIV laissa voir sans fausse honte son émotion.
Il se jeta à genoux en même temps que moi et m'embrassa. Nous fûmes 3/4 d'heure embrassés, sa joue contre la mienne, il pleurait aussi fort que moi.
Oh, pourquoi avez-vous donné le temps de faire des réflexions? Que ne vous hâtiez-vous?
Hélas, sire, qui se serait méfié de la parole de votre majesté? Vous n'en avez jamais manqué à personne, et vous commencez par moi et par monsieur de Lauzun. Je mourrai, et je serai trop heureuse de mourir. Je n'avais jamais rien aimé de ma vie. J'aime, et aime passionnément et de bonne foi, le plus honnête homme de votre royaume. Je ferai mon plaisir et la joie de ma vie de son élévation, je croyais passer ce qui m'en reste agréablement avec lui, à vous honorer, à vous aimer autant que lui. Vous me l'aviez donné, vous me l'ôtez, c'est m'arracher le cœur.
On avait toussé derrière la porte.
À qui me sacrifiez-vous là, sire? Serait-ce monsieur le prince?
Mademoiselle devenait amère, et le roi avait envie que ce fût fini. Mais elle continuait à le supplier.
Quoi, sire? Ne vous rendez-vous pas à mes larmes?
Il répondit en élevant la voix.
Les rois doivent satisfaire le public.
Un instant après, il lui dit.
Il est tard. Je n'en dirai pas davantage ni autrement. Quand vous seriez ici plus longtemps.
Il m'embrassa et me mena à la porte.
Tel est le récit de Mademoiselle. Il en existe un autre, dicté le soir même par Louis XIV à son ministre des Affaires étrangères. Ainsi qu'en témoigne la lettre suivante de M. de Lyonne, écrite le lendemain matin avant que le roi fût levé et expédié en hâte à M. de Pomponne, notre ambassadeur en Hollande.
Je suis accablé d'affaires et n'ai le temps de vous dire autre chose si ce n'est que, comme je ne doute pas que toutes les lettres de Paris ne portent pas en vos quartiers la nouvelle du mariage de mademoiselle avec monsieur le comte de Lauzun, je dois vous avertir que le roi le rompit hier à 11h du soir. Ce que peu de personnes auront pu apprendre avant le départ de l'ordinaire. J'ai déjà minuté une lettre circulaire de Sa Majesté à tous messieurs ses ministres qui la servent au dehors pour les informer de tout ce qui s'est passé depuis 7 ou 8 jours en cette affaire. Mais comme le roi ne s'éveille qu'après 9h, et qu'alors le courrier sera parti, Sa Majesté ne pourra la signer assez à temps pour vous être envoyé aujourd'hui. Et vous vous contenterez, s'il vous plaît, de savoir que le mariage est rompu. Je vous prie d'envoyer la copie du billet à monsieur le chevalier de Terlon et au sieur Rousseau, et de leur marquer que je vous en ai prié.
Avant de faire connaître la
lettre circulaire de Sa Majesté sur les cris et les larmes de sa pauvre cousine, il est à noter que le pays trouva parfaitement naturel,
en jugé par les écrits du temps, se faire part officielle aux puissances étrangères de choses qui les regardaient si peu. Tant l'homme était inséparable du souverain dans l'opinion du XVIIe siècle, et tant la France était pénétrée de l'importance universelle de Louis XIV et des obligations qui en découlaient pour lui.
Il devait compte de ses actions à toute l'Europe,
dit à propos de l'affaire Lauzun, une relation déjà citée. Il est bon aussi de rappeler, pour l'intelligence du texte, que l'une de ces demi-sœurs de mademoiselle avait épousé un duc de Guise, cadet de la maison de Lorraine. Mariage qui n'avait pas semblé moins inégal à l'aristocratie française que celui de Lauzun avec mademoiselle. On n'y avait pas fait grande attention sur le moment, parce que, entre mademoiselle d'Alençon et la grande mademoiselle, l'habitude mettait un abîme.
Mais les députés de la noblesse de France
n'avait pas manqué de faire valoir au roi que les grands de son royaume et les officiers de sa couronne valaient bien les princes étrangers, et en particulier les Lorrains, malgré les prétentions de ces derniers. Cela dit, voilà l'essentiel de la longue dépêche adressée à tous les ambassadeurs. Elle débutait en ces termes.
Comme ce qui s'est passé depuis 5 ou 6 jours sur un dessein que ma cousine avait formé d'épouser le comte de Lauzun, l'un des capitaines des gardes de mon corps, fera sans doute éclat partout, et que la conduite que j'y ai tenue pourrait être malignement interprétée et blâmée par ceux qui n'en seraient pas bien informés. J'ai cru en devoir instruire tous mes ministres qui me servent au dehors.
Le roi exposait ensuite par le menu les incidents de l'affaire, et c'est exactement le récit de Mademoiselle. Sauf que Louis XIV se dépeint très opposé dès le début à ce mariage, et n'ayant cédé que de guerre lasse, à force d'être harcelé par sa cousine et les députés de la noblesse.
Elle continua par de nouveaux billets et par toutes les autres voies qui lui purent tomber dans l'esprit à me presser vivement de donner ce consentement qu'elle me demandait, comme la seule chose qui pouvait, disait-elle, faire tout le bonheur et le repos de sa vie.
D'autre part, les députés lui représentèrent
que si, après avoir consenti au mariage de ma cousine de Guise, non seulement sans y faire la moindre difficulté, mais avec plaisir, je résistais à celui-ci que sa sœur souhaitait si ardemment, je ferais connaître évidemment au monde que je mettais une très grande différence entre des cadets issus de maisons souveraines et les officiers de ma couronne, ce que l'Espagne ne faisait point, et au contraire, préférait ses grands à tous les princes étrangers, et qu'il était impossible que cette différence ne mortifiât extraordinairement toute la noblesse de mon royaume. Pour conclusion, les instances de ces 4 personnes furent si pressantes, ou leur raison si persuasive, sur le principe de ne pas désobliger sensiblement toute la noblesse française, que je me rendis à la fin à donner un consentement au moins tacite à ce mariage, haussant les épaules d'étonnement sur l'emportement de ma cousine, et disant seulement qu'elle avait 43 ans, et qu'elle pouvait faire ce qui lui plairait. Il continuait. Dès ce moment-là, l'affaire fut tenue pour conclue.
Suivez les détails que l'on connaît. Préparatifs du mariage, foule au Luxembourg, bruit
fort injurieux,
que le roi avait arrangé la chose en dessous pour favoriser Lauzun, et finalement, résolution de rompre l'affaire. C'est le seul endroit où Louis XIV ait cru devoir borner ses confidences à l'univers. Il passe sous silence Madame de Montespan, suppliante et condée derrière sa porte.
J'envoyai appeler ma cousine. Je lui déclarai que je ne souffrirais point qu'elle passe à outre à ce mariage, que je ne consentirais pas non plus qu'elle épousât aucun prince de mes sujets, mais qu'elle devait pouvoir choisir, dans toute la noblesse qualifiée de France, qui elle voudrait. Or, le seul comte de Lauzun et que je l'amènerai moi-même à l'église. Il est superflu de vous dire avec quelle douleur elle reçut la chose, combien elle répandit de larmes et poussa de sanglots. Elle se jeta à genoux. Je lui avais donné 100 coups de poignard dans le cœur. Elle voulait mourir. Je résistais à tout. Le roi ajoute qu'il fit ensuite la même communication à Lauzun. Et je puis dire qu'il l'a reçue avec toute la constance, la soumission et la résignation que je pouvais désirer.
C'est sur cette comparaison défavorable à mademoiselle que se termine ce curieux document, si peu généreux en présence, d'un chagrin si vrai et si profond. Cette princesse était remontée en carrosse, dans un état à faire pitié. Elle eut une attaque de nerfs et cassa en route les glaces de la voiture. Au Luxembourg, sa chambre s'était remplie de gens qui attendaient son retour.
Deux de ses valets de pied,
raconte l'abbé de Choisy, entrèrent dans sa chambre en disant tout haut.
« Sortez vite, par le degré !»
Tout le monde sortit en foule, mais je demeurai des derniers et vis la princesse venir, au bout de la salle des gardes, comme une furie, échevelée et menaçant des bras, le ciel et la terre.
Elle avait à peine eu le temps de se calmer, que Lauzun entra, accompagné de Madame de Montausier, Créqui et Guitry.
En le voyant, je criais les hauts cris, et lui eut beaucoup de peine à s'empêcher de pleurer.
La noblesse de France venait sur l'ordre du roi remercier la petite fille d'Henri IV de l'honneur qu'elle avait voulu lui faire. Monsieur de Montausier porta la parole. Mademoiselle sanglotait. Lauzun avait pris l'altitude qui devait lui être comptée, et il le savait bien, d'un homme qui bénit les coups les plus cruels, partant de la main de son roi.
« Monsieur de Lauzun,
écrivait Madame de Sévigné,
a joué son personnage en perfection. Il a soutenu ce malheur avec une fermeté, un courage et pourtant une douleur mêlée d'un profond respect qui l'ont fait admirer de tout le monde.
La princesse l'aurait souhaité moins admirable. Elle lui disait
« Vous avez cette force d'esprit que tout le monde vous croira indifférent pour moi. Que dites-vous ? Et je sanglotais à chaque parole. Il me dit d'un grand sang-froid.
Si vous croyez mon conseil, vous irez demain dîner aux Tuileries et remercier le roi de l'honneur qu'il vous a fait, d'avoir empêché une chose dont vous vous seriez repenti toute votre vie. »
Elle l'emmena à l'écart et eut enfin le plaisir de le voir pleurer.
Il ne me sut jamais parler, ni moi non plus. Je lui dis seulement « Quoi ? Je ne vous verrai plus ? Si cela est, je mourrai. » Puis nous retournâmes. Ces messieurs s'en allèrent. Je me couchai. Je fus 24 heures, quasi sans connaissance.
Elle avait défendu de ne recevoir personne. Sa porte s'ouvrit cependant le vendredi matin pour Madame de Sévigné. Il y avait juste 24 heures que mademoiselle avait débordé de joie devant elle et méprisé ses avertissements.
Je la trouvais dans son lit. Elle redoubla ses cris en me voyant. Elle m'appela, m'embrassa et me mouilla toutes de ses larmes. Elle me dit
Hélas, vous souvient-il de ce que vous me dites hier? Ah, quelle cruelle prudence! Ah, la prudence!
Elle me fit pleurer, à force de pleurer.
Un peu plus tard, on lui annonça le roi.
Quand il entra,
rapporte mademoiselle,
je me mis à crier de toute ma force. Il m'embrassa encore et fut toujours sa joue contre la mienne. Je lui disais, votre majesté me fait comme les singes qui étouffent leurs enfants en les embrassant.
Comme il lui promettait merveille pour la consoler, entre autres, qu'il
ferait des choses admirables pour Monsieur de Lauzun.
Elle eut la présence d'esprit, malgré son trouble, de demander si
il lui faudrait ne plus voir son ami.
La réponse du roi est à retenir, car elle eut de grandes suites pour sa cousine.
Il me dit,
je ne vous défends point de le voir, et assurément, vous ne sauriez prendre avis d'un plus honnête homme, ni plus habile, en tout ce que vous aurez à faire que de lui.
Elle se hâta de prendre acte de la permission.
C'est mon intention, sire, et je suis trop heureuse que vous vouliez bien que ce soit mon meilleur ami. Mais au moins, sire, ne changerez-vous pas comme vous avez fait? Je ne puis m'empêcher de vous faire ce reproche.
Les jours suivants, elle dut rouvrir sa porte, et la même foule qui avait fait semblant de se réjouir avec elle revint faire semblant de la plaindre. Il fallut revoir tous les mêmes visages, subir les regards curieux, les regards railleurs, et répondre aux banalités. On fit de grandes plaisanteries dans Paris de ce qu'elle recevait les condoléances sur son lit, à la mode des veuves.
J'ai ouï dire à Madame de Maintenon,
raconte Madame de Caylus,
qu'elle s'écriait dans son désespoir, il serait là, il serait là.
C'est-à-dire, il serait dans mon lit.
Car elle montrait la place vide. Une grande princesse amoureuse à en mourir, et d'un simple cadet de Gascogne, presque un croquant. C'était un spectacle si nouveau qui choquait tellement toutes les idées sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas que le public, dans le fond, ne prenait pas au sérieux ce chagrin légèrement théâtral. On prétendait que Louis XIV avait dit « C'est une fantaisie qui lui a prise en 3 jours et dans 3, elle en sera consolée. » Vrais ou faux, le roi le niait. Le propos avait l'approbation générale. Il dispensait de s'apitoyer sur cette malheureuse qui se dévorait et dépérissait à vue d'œil.
J'étais maigre, les joues creuses, comme une personne qui ne mangeait ni ne dormait, et je pleurais dès que j'étais toute seule ou que je voyais des amis de Monsieur de Lauzun, que l'on parlait de choses qui avaient relation à lui. J'en voulais toujours parler.
L'espoir d'une prompte mort était sa seule consolation, car personne, elle en était sûre, n'avait jamais autant souffert.
Mon état était pitoyable. Et il faut l'avoir senti pour le comprendre. Et ce sont de ces choses que l'on ne saurait exprimer. Il faudrait les connaître soi-même pour en juger. Et personne ne saurait avoir senti une douleur comparable à la mienne. Il n'y a rien à quoi on la puisse comparer.
c'était l'éternel langage des amoureux déçus. Mais le mot que voici n'est pas à la portée de toutes les âmes. Il s'applique au moment où l'excès de la douleur la rendait presque inconsciente. À force de trop sentir, je ne sentais plus rien. Le cinquième jour, l'étiquette exigea qu'elle fût consolée. On lui rappela ses devoirs de princesse.
Qu'il fallait aller à la cour, que cela était bien mal d'être 8 jours sans voir le roi.
Elle eut beau se débattre contre ses exigences cruelles, force lui fut de se donner en spectacle avec son visage défait, ses yeux rouges et
gros comme le poing.
Ses perpétuelles crises de larmes, à tort et à travers, ses cris aigus dès qu'elle apercevait Lauzun. Ce dernier lui faisait de gros yeux, comme à une enfant, et lui adressait des menaces terribles.
« Si vous faites de ces vies-là, je ne me trouverai jamais où vous serez. »
Mais elle ne venait pas à bout de se dominer. Un soir, à un grand bal de cour, elle s'arrêta au milieu d'une danse et se mit à pleurer. Le roi se leva et vint mettre son chapeau devant la figure de mademoiselle. Il l'emmena ainsi en disant
« Ma cousine a des vapeurs. »
Le public ne la plaignait pas. Il aurait plutôt fait des yeux de joie.
Tout le monde a loué le roi de cette action,
écrivait Olivier d'Ormesson. Louis XIV en redevint populaire. Pendant quelques jours, lui qui ne l'était déjà plus qu'à l'occasion.
On ne peut dire la joie que non seulement toute la cour, mais tout le royaume a eu de cette rupture de mariage.
C'était l'impression unanime. Quant à la princesse, coupable d'avoir cru au
droit au bonheur,
l'opinion l'a jugée très sévèrement. Le XVIIe siècle, on l'a déjà vu, n'admettait pas que l'on fît prédominer les sentiments individuels ou les intérêts du cœur sur les exigences du rang ou de la situation sociale. L'âge des amoureux et l'esprit comique de ce couple mal assorti. Elle si grande, lui presque nain, venant s'ajouter au côté sérieux de l'affaire, la grande mademoiselle tomba brusquement
dans le mépris.
Car, dit la Fare,
si ce mariage avait paru extraordinaire, dès qu'il fut publié, sitôt qu'il fut rompu, il devint ridicule.
Il est agréable de rencontrer un bon samaritain parmi tous ces gens qui ont raison avec trop peu de chanter. Tandis que Madame de Sévigné écrivait gaiement
« Voilà qui est fini !»
Les larmes de mademoiselle inspiraient de bonnes et courageuses paroles à une personne parfaitement obscur et qui se défendait toujours d'écrire aux gens parce qu'elle ne se trouvait pas assez d'esprit. On lit dans une lettre adressée le 21 janvier 1671 à Bussy-Rabutin par Madame de Scudéry, belle-sœur de l'illustre Madeleine.
« Je ne vous dirai rien de l'affaire de mademoiselle. » Vous aurez su sans doute tout ce qui s'est passé. J'ajouterai seulement que si vous saviez ce qu'est une grande passion dans le cœur d'une honnête personne comme elle, vous vous en étonneriez et vous en aurez pitié. Pour moi, qui ne connais point l'amour par mon expérience, je comprends pourtant que mademoiselle est fort à plaindre, car elle ne dort pas la nuit.
Elle s'agite tout le jour, elle pleure, et enfin, elle fait la plus misérable vie du monde. »
Bussy Rabutin répondit. À Chazeux, ce 29 janvier 1671.
« Je comprends bien ce qu'est une passion dans un cœur neuf, comme celui de mademoiselle, de son tempérament et de son âge. Et je vous avoue que cela me fait pitié. Il me semble que l'amour est une maladie comme la petite vérole. Plus on la tare, et plus on est malade. »
Il avait bien compris en effet, mais seulement le côté déplaisant de cette passion tardive. Et presque tout le monde en était là. Ce qui achevait de détourner l'intérêt de mademoiselle. La chute de cette princesse fut ainsi définitive. L'héroïne de la Fronde s'effaça aux yeux de son temps, et il ne resta qu'une vieille fille ridicule, dont les infortunes amusèrent la galerie.